Alors, nous avons eu là ce matin à la louange de beaux chants en langue. Et je voudrais vous dire un mot par rapport à ça. Aux origines chrétiennes, le chant en langue était très répandu. Vous savez d'ailleurs que ça avait même un statut théologique, hein, puisque les premiers païens ont été baptisés à la suite d'un chant en langue. Vous vous rappelez, c'est l'histoire du baptême du centurion Corneille. Les premiers chrétiens ne voulaient pas baptiser les païens, ils voulaient qu'ils deviennent d'abord juifs. Et on se disait donc le judaïsme est l'étape obligée, après on les baptisera. Et donc Pierre s'est retrouvé, vous lisez les actes des apôtres, hein, Pierre s'est retrouvé providentiellement dans la maison d'un officier romain, le centurion Corneille, et il a parlé de Jésus. À ce moment-là, l'Esprit Saint tomba sur eux et ils se mirent à chanter en langue. Et Pierre dit, pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui, comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Vous vous souvenez? Donc, pour les premiers chrétiens, le chant en langue a un statut théologique, il est la marque même de l'action de l'Esprit Saint. Le chant en langue a duré plusieurs siècles dans l'Église de façon très courante. La description la meilleure que nous avons est de Saint Augustin. Donc, Saint Augustin, c'est fin 4e, début 5e siècle, qui parle, et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est dans le bréviaire, à l'office de la Sainte Cécile. On a fait ça après le Concile. Sans du tout faire allusion au chant en langue que l'on connaît dans le renouveau, on a mis ce texte de Saint-Augustin que vous trouvez dans les bréviaires, à l'office des lectures. On lit ça tous les ans. Et donc c'est la meilleure description du chant en langue, et la meilleure explication aussi d'ailleurs. Et puis ça a disparu progressivement, et disons au 7e, 8e siècle, ça avait disparu. Et c'est revenu maintenant par le renouveau charismatique. Ce qui veut dire que si le Seigneur, normalement, le chant en langue devrait être disgracieux. Si vous vous mettez à chanter ensemble sur des airs différents, ça aboutit à une épouvantable cacophonie. On a essayé de faire comme ça des chants spontanés, des musiques spontanées. Il y a eu des tentatives et c'est très très difficile. Tandis que tout à l'heure, c'était assez beau en fait. Non, vous n'avez pas écouté. Donc ça signifie qu'en réalité, il y a quelque chose à l'intérieur de ça. Et en fait, c'est la marque même de l'Esprit Saint. Pourquoi le Seigneur nous donne ça? Il nous donne ça parce que justement, nous sommes dans une époque difficile, comme les premiers chrétiens. Et donc, il nous redonne les grâces qu'il a données aux premiers chrétiens. C'est-à-dire une sorte des grâces collectives, hein, voyez, et de présence, en particulier des grâces collectives de présence et d'aide de l'Esprit Saint. D'accord? C'est pour ça que le chant en langue n'est pas quelque chose... C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est pas un petit plus. C'est vraiment, quand nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, une manière pour lui de nous atteindre individuellement et collectivement. Alors, de temps en temps, le Seigneur confirme l'importance du chant en langue. Et tout à l'heure m'est revenue une histoire qui s'est passée ici même à Paray-le-Monial. Je ne sais plus si c'était en 83 ou en 1983 ou 1984. L'histoire est la suivante. Il y avait à l'époque, il est mort maintenant, à Rome, un exégète, un professeur d'exégèse connu à l'université du Latran, un père assomptionniste, très estimé, qui s'appelait le père Daniel Stirnon. Il était très connu. Le père Daniel Stirnon était tout petit, la moitié de Pierre-Marie, à peu près. Et vous allez me dire, ça reste encore assez grand, mais enfin... Donc c'était, alors là, vraiment, pour le coup, c'était un cerveau sur tête. Il parlait 12 langues, il avait une grosse tête, un petit corps, il parlait 12 langues couramment, des langues anciennes et modernes, et c'était un personnage puissant. Il avait une amie, journaliste à famille chrétienne, qui lui dit, vous devriez vous aérer un peu, connaître le renouveau charismatique, venez donc à Paris. Et je vais tirer pour venir à Paris. Il arrive à Paris, au mieux tous ces oiseaux, dont vous êtes, et... À l'époque, les sessions étaient moins nombreuses, donc on faisait l'office des vêpres dans la basilique où tout le monde se trouvait. Donc il se retrouve dans la basilique au moment du premier office de vêpres, et tout d'un coup, il y a un grand gaillard devant lui. Je peux dire le nom à ceux qui le connaissent, c'est Bernard Clouzot, certains d'entre vous le connaissent. Donc qui se met à chanter. Il y a un chant en langue qui part dans l'assemblée. Et Stirnon, sidéré, s'aperçoit que le grand bonhomme qui est devant lui et qui lui cache toute l'assemblée est en train de chanter à tue-tête les louanges de la Vierge Marie en grec. Et en grec de la koiné, c'est-à-dire en grec des évangiles, pas en grec classique. Et donc le gars se met à chanter les louanges de la Vierge Marie en grec et vas-y petit. Stirnon, sidéré, se dit, mais c'est extraordinaire, merci mon Dieu, il a fait, comme tous les assomptionnistes à l'époque, il avait fait une partie de ses études à Athènes, il parlait parfaitement le grec.